écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Erebos. Mise en scène, production, Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sous cette marque sont la propriété de l'auteur. Les autorités disent à la population, aux journalistes, que l'établissement de soins psychiatriques a pris feu et que des fous très dangereux, qui en plus ont la peste, se sont évadés. Si la population en voit un, il faut qu'ils préviennent les autorités parce qu'ils sont très dangereux et il faut qu'on puisse les persuader à se rendre pour qu'ils puissent être soignés de la peste. En disant qu'ils ont la peste, ils savent que la population ne les aideront pas parce que tout le monde a peur de la peste. On fait aussi un signalement de ces personnes. La population a tellement peur de la peste et des fous qu'ils n'hésitent pas lorsqu'ils en voient et même s'ils ne sont pas sûrs que c'en est une, de dénoncer la personne et qu'on les prenne. Une fois qu'ils sont pris, on les mène directement à l'incinérateur. Le bon docteur Ambert sort enfin du coma. Elisabeth est soulagée. On examine, recherche s'il n'a pas perdu ses capacités intellectuelles et physiques et puis aussi lui faire faire des soins intensifs. Rambert est encore dans le cirage. Il ne sait pas vraiment ce qui lui est arrivé. Il est très faible. Elisabeth explique ce qui lui est arrivé. Puis, petit à petit, il se souvient et tout d'un coup il se rappelle de Cyril. Il se demande ce qui lui est arrivé. Il demande à Elisabeth, « Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous renseigner sur une personne qui habitait chez moi? J'aimerais savoir s'il est toujours chez moi et ce qui lui est arrivé. » Elisabeth, surprise, va se renseigner. Elle demande à la concierge. La concierge lui dit, « Oh, ma bonne dame, il a été pris par la police parce qu'il n'avait pas ses papiers. Malheureusement, il n'est plus revenu. » Elisabeth demande, « Mais où est-il ?» Le concierge lui dit, « Je ne sais pas. Je crois que le bon docteur a dû se faire avoir. Il a hébergé quelqu'un qu'il a dû rencontrer comme ça pour lui rendre service. Ça l'a fait passer pour son neveu. Pour ce qui n'est pas. » Alors ses ennemis ont dû en profiter. Elisabeth la quitte et va au commissariat du quartier. Elle dit au commissaire, qui est le jeune homme, qui est un jeune homme de 25 ans, blond, mince. Je recherche un jeune homme qui a disparu et qui habitait chez le docteur Rambert. Le commissaire lui demande, et quel est ce jeune homme? Elisabeth lui dit, un jeune homme que le bon docteur Rambert a hébergé chez lui et que la police a embarqué parce qu'il n'avait pas ses papiers. Le commissaire regarde sur son ordinateur où il y a absolument toutes les informations sur les gens qui ont été interpellés par la police. Il réussit à voir et lui dit, je vois d'après mes informations que c'est un jeune homme dénommé Cyril et qui avait perdu la mémoire. Il se trouve dans un établissement psychiatrique. Elisabeth demande, « Pouvez-vous me donner le nom de cet établissement, s'il vous plaît ?» Le commissaire lui dit, « Non, malheureusement, madame, pour les informations plus importantes, il faut vous renseigner chez le juge qui s'occupe de cette affaire. » Elle lui demande, « Pouvez-vous me donner le nom du juge où je dois le trouver ?» C'est très important. Le commissaire lui donne sur un papier le nom du juge où elle doit le trouver au tribunal. Il lui dit aussi, il faut bien entendu prendre rendez-vous. Elisabeth va à son rendez-vous au tribunal et est reçue par le juge dans son bureau. Le juge lui demande ce qu'elle désire. Elle lui dit, je fais des recherches au sujet du docteur Rambert. C'est au sujet d'une personne. Je fais des recherches, excusez-moi. Au nom du docteur Rambert. C'est au sujet d'une personne qu'il a hébergée chez lui. Et cette personne a été prise par la police parce qu'il n'avait pas de papier. Je lui demande le nom de cette personne, s'il vous plaît, madame. Elle lui dit « La police m'a simplement donné un prénom, Cyril. » Le juge regarde sur son ordinateur et voit qu'il y a un dénommé Cyril qui a été pris par la police dans l'appartement du docteur Rambert et que cette personne a perdu la mémoire. Il dit à Elisabeth « Je vois sur mon ordinateur que cette personne a été mise dans un établissement psychologique et que malheureusement il est mort dans un incendie qui s'est fait au cours d'une rébellion. » Une fois que toutes les informations ont été faites, elle dit tout ça au bon docteur Rambert, qui lui est très attristé. Elle lui demande « Mais qui était ce jeune homme ?» Il raconte que c'était un garçon qui a travaillé à la clinique, qu'il a été accusé de vol de médicaments. Il l'a interrogé et s'est rendu compte qu'il était innocent. Alors pour éviter qu'il ait des ennuis, il l'a amené chez lui. Elisabeth lui dit « Il ne faut pas amener chez soi n'importe qui, même par bonté, ça peut être dangereux. » Il se dit « C'est pas par bonté, mais par désir qui m'a fait agir comme ça. Si on savait pourquoi j'ai fait ça, on me jugerait très mal, surtout que le jeune était très jeune. Je suis un pervers, un malade. » Un malade. Mais il est triste de savoir que son ami a disparu et qu'il ne le reverra jamais. Cyril marche devant lui. La chaleur est terrible. Il a faim et soif. Il marche sur une route déserte. En passant devant un bourg, il entend, devant une fenêtre ouverte, la radio qui dit que l'on recherche de très dangereux fous qui ont la peste. Et l'on donne des signalements de ces personnes. Il panique, veut changer de vêtements, se sauve. Dit qu'il faut qu'il trouve le plus vite possible des vêtements parce qu'autrement il va se faire tuer. Il essaye de voir, il ne trouve pas de vêtements. Alors il passe par derrière les fermes. Il voit des vêtements sur des étendages. Mais, en s'approchant, il voit que c'est malheureusement des vêtements de féminin. Je dis tant pis, vite, il faut se déshabiller. Alors, il met une robe de jeune fille. Comme il a les cheveux un peu longs, et les a même très fins, cela peut aller. Pour continuer sa route sans avoir peur d'être pris. Malheureusement, il a toujours très faim et soif. Se met à manger de l'herbe et quelques fruits qu'il trouve sur les arbres qui sont restés plus costauds que les autres. Pommes, poires, bois de l'eau, de ruisseaux. Quand il en trouve, c'est même pas des ruisseaux, c'est des filets d'eau. Les gens ne font pas attention à lui ou essayent de lui parler parce qu'il fait bien en fille. Petit à petit, ne sachant comment, il arrive à une grande ville, fatigué, mourant de soif et de faim. Le visage et la robe pleines de poussière. Le visage et la robe pleines de poussière grise. Il s'enfonce dans la ville et voit que cette ville, dont il ne sait pas le nom, est elle aussi pleine de poussière. Comme les gens qui croisent, son sort est triste. Il a peur de la circulation. Les magasins sont pour la plupart fermés. Tout semble plus ou moins délabré. Il se demande ce qu'il va devenir. Marche au hasard dans la ville. Dans une rue, il est accosté par un jeune homme qui doit avoir dans les 25 ans. Il est grand, mince, blond, le visage osseux, pas vraiment beau, mais sympathique, avec de beaux yeux bleus. Il est habillé d'un costume fatigué beige. Le jeune homme dit à Cyril : Alors ? On se promène, jeune fille. Cyril, gêné, continue son chemin. L'autre suit. Il lui dit : Je m'appelle Raoul. Cyril ne dit rien. L'autre lui dit : Une bonne jeune fille comme toi, qu'est-ce que tu fais dans ce quartier ? Cyril lui dit : Rien. L'autre lui dit : J'ai jamais vu une fille aussi belle que toi, tu sais. Il est très pris par lui, en elle. Tu veux pas jouer à la pimbèche, non? Tu ne veux pas me parler parce que je ne suis pas assez bien pour toi? Cyril lui dit, non, c'est pas pour ça. Raoul lui dit, alors, puisque tu ne me dénigres pas, tu vas accepter d'aller au restaurant avec moi? Allez, ma poupée. Cyril a tellement faim qu'il décide de se laisser draguer et d'aller au restaurant. Raoul lui dit, je peux t'amener au restaurant parce que j'ai un peu d'économie. Cyril hésite. Il a tellement faim qu'il lui dit, je veux bien. Raoul le mène dans une petite rue plus loin qui est aussi lugubre, étroite. Les immeubles sont des taudis. Le restaurant, ou plutôt un bistrot-restaurant, genre populaire, a l'air lugubre comme la rue. Il le fait rentrer. C'est sombre, ça sent le tabac, le mauvais vin et une odeur d'alimentation graisseuse. Il y a quelques personnes qui sont là, la plupart sont en train de siroter un verre de vin et quelques-uns mangent. Ce sont des gens qui ont l'air populaires. Le bistroquet est un gros homme à moustache noire, habillé d'un tablier bleu, sale, va à eux. Vous désirez ? Raoul lui dit, nous désirons manger. Le bistroquet les mène à une table et ils s'assoivent l'un en face de l'autre. Le bistroquet leur demande « Qu'est-ce que vous désirez manger ? J'ai un peu de pot-au-feu, un ragoût, de la salade et un morceau de fromage. Est-ce que cela vous va ?» Raoul demande à Cyril « Est-ce que ça te va ?» Cyril lui dit « Oui, merci ». Raoul lui dit « Alors le repas comme ça ». Bistroquet lui dit « De toute façon, je n'ai rien à vous donner d'autre. C'est les restrictions. Pour la salade, vous avez de la chance. J'en ai reçu hier matin. Et c'est parce que celle-là vient du jardin des plantes. C'est mon frère qui me l'a donnée. Parce qu'il travaille là-bas. Et les employés du jardin des plantes ont fait un petit potager. Et il se retire. Revient pour leur apporter le couvert et se retire. Raoul demande, alors jeune fille, tu t'appelles comment? Cyril, gêné, parce qu'il a une robe et a peur que Raoul le renvoie sans le faire manger, et comme il a très faim, alors il dit au hasard, mais il a très honte. Odile, Raoul lui dit, moi tu sais, je suis Raoul, et je suis peintre, pas peintre de tableau, mais peintre du bâtiment. Ça rapporte un peu, enfin juste ce qu'il faut pour vivre. Les gens en ce moment ne pensent pas à rechercher à améliorer leur logement. Ils ont d'autres soucis dans la tête, la peste, et en plus cette saloperie de sécheresse. Le bistroquet leur apporte le premier plat. Il leur dit, vous verrez, c'est pas mauvais, c'est ma femme qui fait la cuisine. Et il se retire. Cyril, de sentir l'odeur des aliments, cela lui donne le vertige. Et même, chose bizarre, ça lui coupe l'appétit. Il a les yeux écarquillés devant son assiette. Raoul lui demande, « Ça ne te plaît pas ?» Cyril lui dit, « Si, je te remercie. Tu dois avouer, c'est que ça me fait quelque temps que je n'ai pas vraiment mangé. Alors bien sûr, lorsque je vois tout ça, ça me donne un peu le vertige. » Raoul lui dit, « Allez, Odile, fais un effort et mange. » Odile en prend une bouchée. Ça le fait trembler et marche. Pour lui, c'est délicieux. Puis se met à manger rapidement, tellement il a faim. Raoul lui dit, « Pas si vite, nous avons le temps. » Il a tellement faim que durant le repas, il ne parle pas. Raoul, ça ne lui fait rien qu'il ne parle pas, parce qu'il l'aime. Il ne cesse de lui dire, « Pauvre gosse, va, si tu veux, je m'occupe de toi. Tu verras, tu ne manqueras jamais de rien. Je n'ai pas grand-chose, mais je sais me débrouiller. Et puis, je sais partager aussi. » Cyril ne lui dit rien. Pour le moment, il mange. C'est sa seule occupation. Malheureusement, le repas se termine. Il a mangé trop vite et trop mangé pour la première fois. Il a mal au ventre et se sent pas très bien. Il a aussi sommeil. Raoul lui demande, « Ça peut aller ? Tu as assez mangé ?» Cyril ou Odile lui dit, « Oui, je te remercie. Je crois même que j'ai trop mangé. » L'autre lui dit, surtout manger trop vite. Maintenant, il va falloir que tu te reposes pour pouvoir digérer. Cyril lui dit, je te remercie. Il a complètement oublié qu'il est habillé en femme et qu'il lui a donné un prénom de femme. Raoul lui dit, allez, on se lève et on sort d'ici. Ils se lèvent tous deux. Raoul va payer le bistroquet et lui dit merci. C'était très bon, ma copine a été satisfaite. Le bistroquet lui dit, va falloir revenir. Raoul lui dit, sûrement. Et ils sortent tous les deux. Raoul dit, « Bien, maintenant, que faisons-nous? Est-ce que tu veux venir chez moi ?» Cyril hésite. Il se souvient que Raoul pense qu'il a une fille. Il se sent gêné et en même temps se demande ce qu'il risque de se passer une fois chez lui. L'autre sourit gentiment et lui demande, « Tu hésites? Tu as peur de moi ? Mais n'aie pas peur de moi, je suis un brave type. Et puis avec moi, tu manqueras de rien. Cyril hésite encore. Raoul lui dit encore. Qu'est-ce que tu vas faire à traîner dans les rues? Comment feras-tu pour trouver à manger? Et puis tu sais, c'est dangereux pour les filles de traîner comme ça. Tu ferais mieux, c'est d'accepter de vivre avec moi. Cyril réfléchit, se dit qu'il a raison. Il en a assez de cette vie. Et aimerait, c'est un peu de repos. Pouvoir manger, ne pas avoir peur. Alors il lui dit timidement, je veux bien. Raoul est tout heureux et lui dit, tu verras, tu seras bien avec moi. Il est heureux parce que lui a toujours vécu seul. Ça lui fait plaisir de s'occuper de quelqu'un, d'avoir une copine. C'est un brave garçon. Il lui dit, allez, viens, chez moi, c'est pas bien loin. Et Cyril, tout de même très gêné, parce qu'il se demande ce qu'il va se passer et surtout comment va réagir Raoul lorsqu'il saura qu'il n'est qu'un garçon. Parce que lui souhaite bien sûr vivre avec une fille. Raoul le mène dans une rue plus loin. C'est une rue populaire et étroite comme l'autre. Il a fait rentrer dans un immeuble quelconque de 4 étages. L'allée est étroite. Elle sent les poubelles et la pisse. C'est très sombre. Seule une lampe nue éclaire au plafond les boîtes aux lettres qui sont défoncées. Il y a plein de papiers à terre. Il monte les escaliers en pierre étroits qui ont une rampe en fer qui est peinte en vert. Les murs sont souillés d'humidité et la peinture n'a plus de couleur. Entre les étages, il y a un petit palier où se trouve une fenêtre étroite pour éclairer l'allée qui n'a jamais été nettoyée. Raoul le fait monter jusqu'au 2e étage. Et là, ouvre la porte de droite. Entre. Cyril se dit qu'il fait une bêtise, qu'il devrait s'en aller maintenant. Mais quelque chose le retient. C'est d'arrêter cette vie d'errante, de faim, de soif. Une fois que la porte s'est refermée, que Raoul les fait rentrer, un petit couloir étroit, avec un porte-manteau rempli de vêtements, et sous les vêtements se trouvent quelques chaussures usées. En face de la porte d'entrée se trouve une porte et sur le côté il y a 2 portes. Une fois qu'ils sont rentrés, Raoul est heureux, dit à Cyril, viens, je vais te présenter mon petit chez moi. C'est pas grand, mais j'ai eu ça pour une bouchée de pain parce que le propriétaire n'arrivait pas à louer cet appartement. Il était trop ancien. Les anciens occupants, des gens qui ont eu la peste. Mais ne t'en fais pas pour ça, ça a été désinfecté. Et puis tu vois bien que je me porte à merveille. Pourtant, cela fait 3 ans que je vis ici. Alors, il lui montre son petit appartement. Il y a une chambre avec un lit à 2 places. Une armoire à 1 porte. Le lit n'est pas fait, ça sent la transpiration et il y a des vêtements à terre. Les meubles sont des meubles disparates. Il a trouvé par-ci par-là. Sur un vieux meuble, 1930, etc. Pas en très bon état, mais ça peut aller. Ensuite, il lui montre la sorte d'eau. Coin douche, petit lavabo et WC. Ce n'est pas très propre,
et là aussi traîne serviette, gants, vêtements, sous-vêtements à terre et même dans la douche. Puis, il lui montre le séjour, qui est une pièce assez grande. Il y a même une cheminée, mais elle est condamnée, et deux fenêtres, pas très grandes, mais tout de même deux fenêtres. Ses meubles en salon avec un vieux canapé en cuir usé, trois chaises, une table basse et un buffet. Là aussi, c'est en désordre. Sur les chaises, des revues mélangées à des vêtements. Sur la table basse, il y a plusieurs versals et des bouteilles plus ou moins remplies. Puis, il va lui montrer la cuisine. Pour accéder à la cuisine, il faut passer par le séjour. C'est une petite pièce, étroite, toute longue, avec une fenêtre et un évier qui est rempli de vaisselle non faite. Table remplie aussi de restes de repas. Un buffet, un réfrigérateur, pas très propre, et sur le réfrigérateur, un four à micro-ondes. Une fois que vous lui montrez tout ça, il demande. Alors, Odile, ça te plaît, ton nouveau chez-toi ? Cyril sursaute. Il ne se souvenait plus qu'il s'appelait Odile. Il lui dit, en essayant de sourire, « Oui, beaucoup, merci. » Raoul lui dit, « Tu verras, nous serons bien tous les deux. » Cyril lui dit, en essayant de sourire, « Je te remercie. » Raoul est heureux. Il va pouvoir vivre en ménage avec une charmante jeune fille qui a l'air gentille et timide. Il faut avouer que si nous étions à la face de Raoul qui trouve Cyril en Odile et charmante, et il est Cyril en Odile charmante. Il est une jeune fille grande, mince, le visage doux, les cheveux blonds qui ondulent. Elle n'a pas de hanches et semble avoir un corps parfait. Il ne faut pas oublier, c'est que l'idéal féminin, c'est malheureusement de ressembler le plus possible à un corps de garçon. C'est-à-dire de ne pas avoir de hanches, ne pas avoir de grosses fesses, mais des jambes longues et minces comme les jeunes adolescents. Bien entendu, il faut qu'elles aient en plus, c'est-à-dire des seins, mais suivant les goûts des garçons, ils peuvent être soit gros, soit petits. Et en plus, Cyril, en Odile, semble délicate et timide. Tous les hommes aiment les jeunes filles qui ont un côté jeune adolescent et sont plus attirés par elles. Comme il ressemble à une jeune adolescente, pas encore tout à fait formée, cela attire les hommes et Raoul. Ils sont là, l'un en face de l'autre, un peu gênés. Raoul aimerait câliner cette jeune fille pour lui prouver qu'il a de l'affection pour elle et lui démontrer qu'elle peut compter sur lui parce qu'il est très doux et tendre. Alors, il s'approche d'elle, lui caresse ses cheveux. Il n'ose pas bouger et tremble tout. Raoul lui dit tendrement, « Tu n'as rien à craindre. Je ne te ferai jamais ce que tu ne veux pas que je te fasse. Je te le jure. » Il lui donne un baiser sur la joue. Il veut lui donner un baiser sur les lèvres. Et là, Cyril, instinctivement, se dégage. Raoul lui demande, « Tu n'aimes pas quand on t'embrasse ? À moins que ce soit parce qu'aucun garçon ne t'a embrassé. » Bien, puisque ça te gêne, je ne t'embrasserai pas sur les lèvres. Il sourit timidement et la baisse sur la joue. Puis, ses mains caressent son corps. Cyril se sent très gêné et en même temps ne comprend pas pourquoi cela lui donne du plaisir. un plaisir étrange. Il lui semble que ça lui rappelle quelque chose. Alors il se laisse caresser. Raoul lui caresse le dos, tout doucement, les bras, et lui prend la main et lui donne des baisers sur la paume de la main. Puis il caresse sa poitrine et lui dit « Tu n'as pas de sein ?» Odile lui dit, enfin Cyril lui dit « Non, je suis très jeune, tu sais. » Il est rouge et a les yeux baissés. Raoul sourit et lui demande « Mais tu as quel âge ?» Cyril lui dit au hasard « 16 ans ?» Raoul lui dit « Moi j'en ai 25. Je suis pas trop vieux pour toi ?» Cyril lui dit « Non. » Ça va. Raoul continue à la caresser, se dégage, la prend par la main et l'amène à la chambre. Cyril a très peur et se dit, ça y est, il va découvrir, il va renvoyer, il va découvrir mon secret. Tant pis. Il faut souhaiter seulement qu'il ne soit pas trop en colère, qu'il ne soit pas trop furieux. Et puis il risque de le prendre pour quelqu'un qui vit de ses charmes en cachant qui il est. Une fois dans la chambre, Cyril lui dit « Écoute, j'ai quelque chose à te dire. » Raoul sourit, lui dit « N'aie pas peur, je comprends. Tu n'es pas. Tu n'as pas. Mais avec moi, ce sera très doux. Tu verras. Tu n'auras qu'à te laisser guider. N'aie pas peur. » Il l'embrasse sur la joue. Il caresse ses cheveux. Cyril est pris par la peur, le dégoût et en même temps un désir qui le prend. Un désir. Qu'il le prenne dans ses bras et reçoive ses caresses. Pourquoi un tel désir? Alors Raoul, doucement, l'allonge sur le dos, sur le lit, défait. Cyril, toujours les yeux fermés et tremblant, Raoul lui caresse le visage et lui donne des baisers. Puis se déshabille. Cyril reste allongé, tremblant et à très peur. Je dis que ça y est, il va découvrir son secret. Lui, une fois nu, Cyril n'ose pas ouvrir les yeux. Raoul la trouve très belle et continue à la caresser et lui donner des baisers sur la joue. Part sur les lèvres parce qu'il sait qu'elle ne veut pas. Puis, il veut lui enlever sa robe. Cyril se retire et lui fait « Non !» Raoul n'insiste pas et lui dit « Bien, je ne ferai pas ce que tu ne veux pas. Tu vois, je te respecte. » Cyril reste les yeux fermés, ne dit rien. Raoul lui dit gêné « Tu sais, malgré tout, tu pourrais me sucer ?» Elle ne dit rien et lui dit « Ça me ferait très plaisir. Et puis c'est pas grand-chose. » Tu ne peux pas me faire ce petit cadeau ? Malgré la gêne et la honte, Cyril ne comprend pas pourquoi lui aussi en a envie. Alors malgré lui, il lui dit « Oui, Raoul est tout heureux. » Il lui explique ce qu'il faut faire. C'est allongé à côté d'elle. Cyril le fait gêner. Mais en même temps, il se met à aimer en le suçant. Toutes ces chaleurs qui se dégagent de ce garçon. Au bout d'un moment, lorsqu'il a envie d'éjaculer, Raoul lui dit « Attends, il faut que je me retire. » Cyril se dégage, lui jouit comme ça sur le lit. Cyril le regarde sans gêne. Il a mouillé son slip. Puis, une fois que Raoul est joui, il se nettoie avec le drap. Il se penche vers elle et la baise sur la joue en lui disant « Merci, tu es gentille. Tu sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas pu faire avec quelqu'un. Seul, c'est pas mal. » Mais enfin, avec une particulière, c'est tout de même mieux. Puis, ils sont restés quelque temps en lancée et ils se sont levés. Raoul s'est rhabillé. Cyril a débroussé sa robe et sont allés au séjour. Pour boire. Un verre de vin, tiens, ça te fera du bien. Ils ont décidé de vivre ensemble. Cyril aime bien Raoul. Et puis, il ne sait pas pourquoi, mais se sent attiré par lui, son corps, son visage sympathique, et en plus ses caresses lui plaisent. Ils couchent ensemble, mais Cyril reste habillé complètement. Enfin, pas vraiment complètement, il quitte sa robe dans le séjour pour se mettre une blouse que Raoul a pour son travail. Raoul trouve charmant qu'une jeune fille soit plus pudique à cette époque. Il se dit qu'il va l'aimer encore plus parce qu'elle est douce et pure. Dans le lit, Raoul la caresse et se fait sucer de temps en temps. Cyril l'aime plus et malgré elle ou lui demande ses caresses. Mais Cyril ne lui montre jamais qu'il le désire. Il vit gentiment. Raoul est heureux. Raoul, le matin, se lève à 5 heures pour aller travailler et entre le soir à 17 heures. Il est épuisé. Cyril le reçoit avec le sourire, lui sert à boire et à manger. Une fois que Raoul est mangé, ils vont tous les deux se coucher pour se faire câliner et ensuite Raoul dort une partie de la fin de journée. Il est épuisé par son travail et la chaleur. Durant la journée, Cyril ne fait rien, ou plutôt s'occupe du repas et un peu de ménage. Tout de même, il est gêné de jouer ce jeu, et même drôlement gêné, il faut toujours se cacher qui il est. Il aimerait le quitter et le trouve gentil, et puis il aime ses caresses, et il est en sécurité avec lui, il a à manger. Il est très gêné de jouer la femme et toujours cacher qui il est. Mais des fois, par amour pour lui, il aimerait le quitter. Mais non, il le trouve tellement gentil et aime ses caresses. seul, il se demande ce qu'il deviendrait, et lui, que deviendrait-il lorsqu'il saura qui il est? Il sera peut-être tellement déçu que ça va lui faire une peine terrible. Et il a peur qu'il en souffre. Et puis il se dit que passer son temps, aller d'une vie à une autre, que ce n'est pas une vie. Non, ce n'est pas une vie. Il aimerait vivre sa vie. Pour ça, il faudrait connaître son passé. Des fois, il a envie de tout lui dire. De toute façon, un jour ou l'autre, il va savoir et le saura par surprise. Il aura une grande déception et peut-être sera-t-il très en colère contre lui. Il va peut-être être dégoûté par lui. Cyril a peur que Raoul soit dégoûté par lui. Il va le rejeter, lui va en souffrir. Cyril a un corps bien fait, comme rêvent tant de jeunes filles, c'est-à-dire un corps de jeune adolescent. Cyril se laisse toucher, sauf le bas-ventre et la poitrine. Il lui dit que ça lui fait mal. Raoul est tellement pris par ses formes et sa douceur, il ne se rend pas compte qu'il caresse un jeune homme. Et puis il y a quelques années, un homme s'est marié avec une japonaise qui était en réalité un homme. Il a vécu avec elle pendant plus de 20 ans. Cet homme était un américain et l'homme qui jouait la femme était un espion japonais. Ceci s'est passé en 1980 et c'est un fait divers réel. Ce qui veut dire que l'histoire que je raconte peut être possible. Le docteur Ambert a repris ses fonctions. Il est complètement rétabli. On est satisfait et heureux. Elisabeth, bien entendu, en est très heureuse. Il entre chez lui, malheureusement tout seul. Ça l'attriste beaucoup car il pense au jeune Cyril. La concierge, en le voyant dans son allée, lui demande « Je m'excuse de vous demander ça, monsieur Rambert, mais est-ce que c'était vraiment votre neveu, le jeune homme qui habitait chez vous ?» Il est furieux, il lui dit « Ça ne vous regarde pas !» Elle est attristée, lui dit J'ai pas posé cette question par curiosité, c'est simplement pour savoir, parce que vous êtes un homme si bon. Rambert veut faire une enquête et savoir ce qu'est devenu Cyril. Il va voir au commissariat, on lui donne l'adresse du juge. Il demande rendez-vous à celui qui s'est occupé de l'affaire. Le juge le reçoit dans son bureau et lui demande, après lui avoir dit ce qui s'était passé avec la police et Cyril. Donc le juge lui demande « Pouvez-vous me dire ce qu'était ce jeune homme et son nom véritable ?» Rambert ne sait quoi répondre. Il dit simplement « J'ai fait connaissance de ce jeune homme qui avait besoin d'aide et était à la rue. Alors je l'ai mené chez moi. Je l'ai hébergé pour qu'il puisse prendre des forces et avoir le temps de trouver un logement. » Le juge ne dit rien, parce que c'est lui. Rambert demande, « Êtes-vous sûr que le petit soit mort ?» Le juge lui dit, « Malheureusement, monsieur, malheureusement. » Il s'en est retourné tristement, mais avec le travail, il tient le coup. Malheureusement, il y a beaucoup de mortalité, de malades qui termineront comme les autres dans le four. Il n'y a aucun vaccin qui arrive à enrayer la peste, qui est une peste particulière. Les pays d'Europe sont paralysés. Déjà que les finances n'étaient pas bonnes et même catastrophiques. Certains pays étaient quasiment en faillite. Là, par le manque d'activité, ça s'est aggravé encore plus. Le manque d'activité est dû à la sécheresse, l'épidémie très meurtrière. La dette européenne est devenue énorme. Elle demande de l'aide. L'Amérique ne peut pas parce qu'elle est plus endettée qu'elle. Mais la Chine accepte de payer la dette européenne. Les Européens sont soulagés. Les Chinois se frottent les mains. L'Europe est à leurs pieds. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Jean-Pierre Junier et Ribos. Production, mise en scène, Jean-Pierre Junier.